Salut Abel.
Salut Marc.
Je suis ravi de te retrouver, merci d'être là. On va continuer à parler de l'assoce que tu as fondée qui s'appelle SOS Petite Bête. Je l'ai mal dit, SOS Petite Bête.
Ouais, avec un P apostrophe.
Il y a un P apostrophe Petite Bête qu'on trouve sur tous les réseaux sociaux. Vous avez un site web, donc on vous trouve facilement. Je te laisse nous rappeler la spécificité de cet asso. Vous avez des animaux que vous recueillez en priorité.
Des reptiles, des amphibiens et des invertébrés qui sont abandonnés par leurs propriétaires.
Rappelle-nous, pourquoi tu as fait ce choix ?
Alors j'ai fait ce choix tout simplement parce que il n'y avait pas une équité entre les sauvetages de tous les animaux, c'est-à-dire que les chiens, les chats, il y a plein d'infrastructures qui les récupèrent, la SPA par exemple, même les rongeurs qui sont un peu moins communs. Par contre, pour les reptiles, il y a très peu de choses qui sont mises en place et ces animaux, ils sont trop mis à l'écart, donc j'ai voulu leur offrir une solution.
Tu as dit qu'il y avait qu'une dizaine de structures en France qui s'occupaient des reptiles. Effectivement, c'est très peu par rapport aux chiens et aux chats et même aux chevaux ou à plein d'autres animaux. C'est peut-être le moment de dire que toi, tu t'intéresses à des animaux qui sont quand même assez majoritairement détestés, qui sont craints. Est-ce qu'il y a de bonnes raisons qu'ils soient craints ? Comment tu vois tout ça ? Comment tu expliques tout ça ? Comment tu expliques ce désamour des gens pour les serpents et les amphibiens ?
Alors, ce que je pense, c'est que c'est très culturel, en fait. Si on remonte un peu dans la culture qu'on a en Europe, en France, même dans la Bible, le serpent, il incarne le mal. Donc, en fait, c'est un truc très culturel qui se transmet un peu. Et donc, beaucoup de gens ont peur de serpents aussi parce qu'ils les connaissent mal. C'est des animaux qu'on voit pas souvent, qui sont assez discrets. On peut en avoir facilement peur parce qu'on les connaît pas. Et on a peur de ce qu'on ne connaît pas.
Oui, il les tue, les déteste, oui, en effet.
Le coup de bêche dans la tête, c'est une cause de mortalité très importante des serpents en France. Il y a plein de gens qui vont mettre un coup de pelle dans la tête des serpents ou même les écraser, faire un détour en voiture pour en écraser quand ils s'en voient sur le bord de la route.
Ça paraît fou. Est-ce que vous êtes paritaire ? C'est-à-dire que, est-ce que justement, il y a des filles dans cet asso ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça se vérifie que les filles ont plus peur des serpents que les hommes ? Enfin, tu vois, c'est cette espèce d'image d'épinal.
Chez nous, ça se vérifie pas du tout. On est autour toujours de 50% d'égalité homme-femme. On est vraiment parfait parce que je pense que le milieu des animaux intéresse un peu plus les filles. Moi, je le vois à la SPA. Il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Les reptiles, un peu plus les hommes. Donc, effectivement, ça fait qu'on a un juste milieu et qu'on a une égalité.
Oui, c'est fou. Donc tu es en train de m'apprendre que vous êtes paritaire alors que vous êtes 70. Et apparemment, tu n'as pas fait d'effort pour choisir plus de nanas que de mecs. Enfin, c'est vraiment tombé comme ça, quoi.
C'est tombé comme ça. C'est les membres qui sont venus et qui sont intéressés à ces animaux.
D'accord. Tu as brièvement évoqué les pompiers dans le premier épisode. Et je voudrais que tu reviennes sur le rôle qu'ont les pompiers et que tu nous racontes quelques anecdotes que tu as pu vivre parce que tu es en relation avec eux. C'est-à-dire que quand les pompiers ne savent pas quoi faire d'un animal, ils peuvent vous appeler.
Alors complètement, on est même en partenariat avec les pompiers de l'Essonne en fait. Le colonel Gouhery est un grand spécialiste qu'on connaît bien. Et donc effectivement, c'est souvent les pompiers qui vont être appelés quand un serpent est retrouvé dans la nature. Et donc il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils connaissent un peu les reptiles. Donc il y a des unités qui sont spécialisées dans les animaux. Mais du coup, avec l'association, on fait parfois des formations pour les pompiers ou pour d'autres entreprises pour qu'ils connaissent mieux ces animaux-là et qu'ils puissent les reconnaître et agir en conséquence quand ils vont se retrouver face à face avec un reptile en intervention.
Alors justement, éclaire-nous un peu, quelles sont les précautions à prendre ? Enfin, si demain c'est très improbable, donne-nous 2-3 exemples. Je ne sais pas si tu en as d'exemples de venimeux, ce qui serait quand même assez choquant que des gens relâchent dans la nature des serpents venimeux. Et explique-moi, en fonction des serpents, les bons gestes à avoir.
Alors déjà, il faut faire la distinction entre les deux serpents qu'on peut retrouver ici. Il y a les serpents français, qui eux sont des serpents qui vivent naturellement en France. Donc on a en France que des couleuvres et des vipères. On a par exemple la couleuvre à collier anciennement, qui est maintenant couleuvre helvétique, et la vipère aspic, qui sont les deux serpents qu'on va retrouver vraiment le plus régulièrement. Et ça, ce sont des serpents français qu'il faut complètement laisser dans la nature, parce qu'ils ont leur place dans l'écosystème. Et après, il y a tous les serpents exotiques qui vont pouvoir être retrouvés. Donc on va avoir des serpents qui sont pas venimeux, comme des pitons, des boas, des couleuvres exotiques qu'on récupère nous à SOS Petite Bête. Mais il y a aussi des serpents venimeux qui sont détenus illégalement par certaines personnes. Et par exemple, il y a beaucoup de crotales qui sont ramenés d'Allemagne. On peut en acheter pour 15 euros dans ces pays-là. Et ensuite, ils vont être élevés dans des conditions plus ou moins réglementées en France. Et ils peuvent parfois se retrouver dans la nature.
C'est incroyable ce que tu me dis. C'est-à-dire que vous avez déjà été sollicité pour des crotales.
Alors, pas nous directement, mais les pompiers avec qui on travaille en récupèrent assez souvent. Et nous, on est appelés parfois pour des gens qui ont des animaux qu'ils n'ont pas le droit d'avoir, mais que nous, du coup, on ne peut pas récupérer parce qu'on ne peut pas les replacer derrière. Et donc là, on contacte des zoos, les pompiers ou des spécialistes qui ont la capacité de prendre des animaux venimeux ou dangereux.
Tu m'as encore pas rassasié d'exemples. Donc les crotales, beaucoup de boas, etc. Quoi d'autre?
Il y a un peu de tout. Même en lézard, on peut avoir des iguanes qui s'enfuient. Et on a une histoire comme ça de pompiers qui courent pendant des semaines après un iguane dans la nature parce que c'est un animal qui monte très facilement dans les arbres et qui est très compliqué à attraper quand on ne connaît pas en plus les codes qu'il a et donc on ne sait pas y aller doucement avec lui et qu'on l'effraie.
Quels sont ces codes?
La plupart des lézards, et particulièrement les iguanes et les égames, vont avoir un code très simple, qui est un hochement de tête pour un signe de défiance entre deux mâles qui veulent se battre, ou entre un mâle et une femelle. Et quand le mâle veut se reproduire avec la femelle, il va faire un hochement de la tête. Et ensuite, la femelle, si elle est d'accord, le consentement existe chez les lézards, elle va faire un mouvement circulaire de la patte, qui veut dire qu'elle veut bien s'accoupler. Ou un mâle qui veut pas se battre avec un autre mâle, il va faire aussi un mouvement circulaire de la patte, qui est un signe d'apaisement. Donc nous, on fait ça, nos lézards, quand ils sont un peu énervés.
Alors là, tu m'apprends vraiment quelque chose. C'est-à-dire, là, je fais le geste d'une main,
Complètement.
je fais des ronds avec ma main. Tu fais ça et ça calme le serpent?
L'iguane, enfin, c'est pour des lézards, ça. C'est des lézards, et donc mon iguane, on a un iguane par exemple en ce moment à l'association, et quand il est un peu énervé, quand il fait des hochements de tête pour dire que c'est lui le patron, on lui dit d'accord, c'est toi le patron, il n'y a pas de souci, parce qu'on ne peut pas être au-dessus d'un iguane. C'est pas comme un chien où on doit le dominer, un iguane c'est impossible à dominer. Donc on dit que c'est lui le patron, et
En
on le
faisant les
laisse.
petits gestes circulaires de la main.
Ouais.
C'est génial.
Donc on peut communiquer avec eux, hein. C'est pas des animaux qui sont sanguinaires et reptiliens comme on peut le penser.
Froid.
Voilà, c'est des animaux qui sont super intelligents et avec qui on peut communiquer, on peut comprendre leurs différents
Code?
codes.
Ok. Abel, c'est drôle que tu t'appelles Abel quand j'y pense, c'est un prénom très biblique, et Abel et Caïn, et tu parlais du serpent de la Bible tout à l'heure, Adam et Ève, enfin bon, bref.
Oui, c'est très drôle.
Donc Abel, est-ce que tu me raconterais quelques anecdotes? Votre association n'a que 3 ans, mais est-ce que tu as d'autres anecdotes à raconter, heureuses, tristes, de belles histoires ou de tristes histoires? Elles peuvent être belles même en étant tristes. Tu me parlais par exemple en arrivant, on va quand même dire un mot sur lui, de Whopper, ou Whopper, qui est le nom d'un varan un peu spécial.
Ouais, alors ce varan-là, c'est le seul animal qui est arrivé à l'association et qui repartira pas parce que en fait, je me suis trop attaché à lui. C'est le problème quand on voit passer plein d'animaux super mignons, super intéressants. Whopper, il était très effrayé quand on l'a récupéré il y a maintenant 3 ans, c'était au tout début de l'association. On l'a récupéré, il avait très très peur de nous, il était dans un endroit où il y avait plein de chiens qui passaient devant son terrarium, il était effrayé toute la journée, voilà, en continu. Et en fait, on l'a réhabitué tout doucement. Il a recommencé à manger parce qu'il mangeait quasiment plus. Et maintenant, c'est un goinfre. Il fait que de se nourrir tout le temps.
D'où son nom
D'où
d'ailleurs.
son Whopper, effectivement, comme le burger.
Rappel pour les boomers qui vont jamais au McDo, c'est quoi un
Alors,
Whopper?
pour les boomers, encore une fois, les Whoppers, c'est un burger de Burger King que je ne consomme pas, moi. Je suis végétarien.
Ah oui, bah alors ça c'est un élément important, blague à part. Ouais, donc t'es végétarien.
Ouais, depuis 2 ans.
Alors attends, on va rester sur nos animaux, sur les belles histoires. Donc Whopper, est-ce qu'on a tout dit sur lui? Déjà, c'est quoi comme espèce de varan? Il y a différentes espèces
Ouais,
de varan,
il y a plein
j'imagine.
d'espèces de varans en fait. Dans les lézards, on va avoir plein de familles de lézards, dont les varans. Et dans les varans, il y a plein plein d'autres espèces.
En l'occurrence, Whopper, c'est
Et
quoi?
Whopper, c'est un varan des savanes qui vit en Afrique, à l'habitat
D'accord.
naturel.
Tu l'as récupéré, il faisait quelle taille et aujourd'hui il fait quelle taille?
Ah, je l'ai récupéré, il devait faire une trentaine de centimètres et là, il en fait 90.
Ah oui, ouf, énorme!
Il a bien grandi, il mange bien. On le limite aussi parce que les reptiles sont assez facilement sujets à l'obésité. Parce que voilà, ils se chauffent pas, donc ils n'utilisent pas beaucoup d'énergie. Et si on les nourrit trop, ils peuvent vite devenir assez gros. Donc on récupère des fois des animaux qui sont trop gros qu'on doit faire maigrir, et au contraire des animaux qui sont très maigres et qu'on doit faire grossir. Dont là, je pense par exemple à un boa qui avait pas mangé depuis plus d'un an et qui était vraiment
Rachitique.
voilà rachitique, limite mort quand on le prenait. Il était tout mou et on a réussi à le refaire manger. Il a repris des forces et il s'est fait adopter maintenant, voilà. Et puis il y a aussi beaucoup d'animaux qui sont très mal en point. On a en ce moment Voldemort, qui est un
Ah.
serpent qui a été mordu par un ami du propriétaire dans une soirée. Et donc il a été mordu au visage et il a perdu la moitié de son visage. Donc voilà, il est
Il était mordu par qui?
pas un homme.
C'est une blague.
Non, non, pas du tout. Il y a vraiment une histoire horrible chez SOSUDET. Mais il va plutôt bien, donc on l'a
Attends,
récupéré,
il y a un
heureusement.
être humain qui a
Oui.
mordu un serpent et qui lui a arraché la moitié de la gueule.
Alors, je pense qu'il était dans un état assez second. Il y a des hommes qui sont capables de faire ça, oui, apparemment. Donc voilà, on l'a récupéré comme ça, heureusement, juste après cette soirée qui a mal tourné. Et du coup, on a pu directement lui injecter des antibiotiques pour le soigner, lui mettre de la pommade. Et maintenant, ça fait un peu plus de 3 mois qu'on l'a et il soigne de plus en plus. Et là, il est quasiment complètement cicatrisé. On a dû le gaver jusqu'à la semaine dernière. Et la semaine dernière, il a pris son premier repas tout seul, comme un grand.
Quand tu dis repas, tu veux pas nous faire peur, nous horrifier, mais vous leur donnez quoi à manger ?
Alors, on leur donne des souris, mais des souris qu'on achète congelées. Donc, on ne donne pas d'animaux vivants, ce qui serait déjà assez horrible pour la souris. Et en plus, le serpent, s'il ne mange pas, il risque de se faire attaquer par la souris. Donc, on ne donne que des souris qui sont congelées, et qu'on décongèle pour leur donner.
D'accord, ok. Ah ouais, non, du coup, j'ai 1000 questions là sur comment vous les nourrissez, ces histoires de souris, etc. On va y revenir. Mais toujours pareil, j'ai pas été rassasié d'histoire. Donc là, tu as parlé d'un homme qui avait mordu un serpent, mais c'est quand même incroyable. Tu as parlé de Whooper. Quelles sont les autres grandes, belles ou énormes histoires de SOS Petite Bête ?
Là, je pense par exemple à Flamèche, qui était un petit gecko-léopard, donc un tout petit lézard qui vit en Afghanistan.
Alors, mais moi qui connais rien, pour le coup, gecko-léopard, ils sont hyper connus, les plus beaux.
Oui, ils sont assez courants et ils sont très mignons. Mais celle-là, elle n'était pas très très belle quand on l'a récupérée. En fait, elle vivait dans un petit terrarium avec une grosse lampe chauffante. La personne nous a amené avec l'animal le matériel qu'il avait. Et en fait, on a tout de suite vu. En fait, il y avait une lampe chauffante très 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 forte et placée très près de l'animal qui lui a complètement brûlé, mais toute la peau. C'est-à-dire que de la tête à la queue, Flamèche, elle était complètement brûlée, ce qui lui a valu son nom du coup. Et donc même ses yeux étaient brûlés, elle était aveugle et elle se nourrissait plus du tout. Donc on a dû la gaver en vidant des vers moriaux dans sa bouche. J'ai parlé des vers moriaux, c'est des insectes avec lesquels on nourrit les lézards. Donc j'ai parlé des détails, mais c'était assez horrible. Ça a duré un mois et demi. Et au bout d'un mois et demi, la faculté de muer qu'ont les reptiles, a super bien marché. Et donc elle a perdu toute cette couche de peau très brûlée qui était horrible. Et elle a retrouvé en dessous sa super belle couleur de gecko-léopard. Et maintenant, elle est dans une famille qui a adopté plusieurs animaux d'ailleurs.
Et elle est malheureusement toujours aveugle ?
Non, elle a retrouvé la vue. Hein. Donc elle a mué sur tout le corps et toute la zone qui était brûlée, dont les yeux, sont partis. Et donc elle voit super bien, elle mange toute seule et tout est reparti très très bien.
C'est des super histoires. Bah, du coup, on a envie d'en avoir encore des histoires. Est-ce que t'en as d'autres ? À part Flamèche. Flamèche, c'est un nom de Pokémon. Hein. Et là, je me tourne vers ton petit frère Maé qui croise les mains comme un homme politique avant de parler. C'est un nom de Pokémon, Flamèche ?
Salamèche, c'est un nom de Pokémon. C'est Salamèche. Pareil, oui. Mais oui, on donne des noms un peu rigolos souvent à nos animaux. Parce qu'on...
Voldemort, c'est pas mal.
Voldemort, parce qu'il a perdu le nez. Donc voilà, des fois c'est un peu glauque. On a des noms qui sont souvent liés aux histoires aussi.
C'est dans Harry Potter. Hein.
Oui,
Voldemort,
c'est
le grand méchant de
pour
Harry Potter.
Pour les boomers, toujours.
Oui, toujours boomer, oui. Mais bon, on va essayer, toi et moi, de réconcilier ces deux, ces deux grandes catégories que sont les Jones et les boomers. Ok, d'autres histoires ?
Il y en a des centaines, en fait, d'histoires. Par exemple, là, je pense à un serpent qui était complètement aveugle pour le coup. C'était, je sais pas de naissance, mais je crois que c'était parce que, pareil, il était dans des conditions qui étaient pas ouf quand on l'a récupéré. Et il a dû perdre la vue à cause de bactéries ou je ne sais quoi.
C'était quoi comme...
C'était une Elaphe rosselleni. On avait deux, en fait, qu'on a récupéré chez la même personne. Donc, une qui était complètement aveugle et qui, dès qu'on l'a mis dans son terrarium, a fait le tour de son terrarium pour connaître tous les contours, pour qu'elle connaissait exactement l'endroit de sa cachette. Et donc, quand on la nourrissait, uniquement à l'odeur, elle savait où était la souris, elle attrapait la souris, elle allait se mettre sous sa cachette parce qu'elle savait exactement où elle était positionnée dans son terrarium et donc elle allait manger tranquillement cachée dans sa cachette. Et l'autre avait une scoliose sur tout le long du corps, mais elle était super gentille, donc voilà, il y a des animaux des fois qui arrivent assez mal en point.
Alors tu me parles de cette couleuvre exotique Elaphe, qui est un genre connu de serpent. Du coup, je repense à une question à laquelle tu n'avais pas complètement répondu. Je repense aux pompiers et aux gens qui relâchent des animaux exotiques dans la nature. J'imagine que vous êtes formés à ça, même si ça ne doit pas arriver souvent. Quand il s'agit d'un serpent venimeux, quelles sont les méthodes, il ne doit pas y en avoir 36, pour capturer un serpent venimeux qu'on trouverait dans la nature ?
Alors ça, c'est pas un particulier de le faire parce que ça peut être quand même assez dangereux, hein. Même si les serpents, nous, on se bat pour faire comprendre aux gens que c'est des animaux qui sont super cool, très intéressants et tout. Un serpent venimeux, ça peut quand même être dangereux. Même si en réalité, le venin est pas... Déjà, faut que le serpent morde pour qu'il y ait une injection de venin. Et en fait, 80% du temps, les morsures de serpents venimeux vont être sèches. Et donc, il n'y a pas d'injection de venin, donc aucun danger. Mais il faut quand même prendre ses précautions, même avec les vipères qu'on a en France et avec d'autres serpents qui sont importés encore plus. Et donc, en fait, quand on trouve un serpent venimeux, il faut appeler directement des pompiers qui vont contacter une unité spécialisée et qui vont pouvoir le capturer. Mais ça se manipule pas avec des mains, un serpent venimeux. Nos serpents, on les manipule à la main sans souci, mais on va prendre des crochets de plusieurs mètres, voire le manipuler à distance.
Vous avez des serpents venimeux, là, en ce moment ?
Non, pas du tout, et on n'en récupère pas, parce qu'on n'est que sur des espèces qui sont complètement inoffensives et légales, que n'importe qui pourrait acheter en animalerie. Voilà, c'est que des espèces, et c'est pour ça qu'on veut les replacer après, qui sont inoffensives.
D'accord. Tu parles d'animalerie, on l'a évoqué au premier épisode. Toi qui es si proche de la nature et des animaux, qu'est-ce que tu penses des animaleries? Tu sais très bien que, alors c'est pas du tout pour, je vois que tu fais oui de la tête, tu sais très bien que, alors peut-être pas tous, mais les animaleries contribuent pour partie, on va pas se faire trop d'ennemis aujourd'hui, à des prélèvements dans le sauvage. Et donc que ces mêmes animaleries dans lesquelles tu achètes tes propres serpents, parce que tu m'as dit que tu en avais, ou que ceux qui viennent, que les gens abandonnent, etc. Donc quelle est cette relation, comment tu le vis, la relation avec les animaleries?
Alors, il y a un bon côté et un mauvais côté. Alors effectivement, les animaleries, elles sont responsables beaucoup de fois. On parlait de Flamèche tout à l'heure. Flamèche, la lampe trop forte qui lui a brûlé le dos, c'est un vendeur en animalerie qui l'a conseillé. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment revoir le modèle et avoir, si les animaleries continuent en tout cas, avoir des animaleries qui sont et des vendeurs qui s'y connaissent beaucoup mieux et qui peuvent bien conseiller les personnes. Et nous, on travaille par exemple avec Reptiligne, qui est un magasin spécialisé dans les reptiles, que des animaux qui sont pas prélevés dans la nature, qui sont nés en captivité. Et eux, voilà, on travaille beaucoup avec eux, on a des prix avec eux, et eux, ils font au mieux possible les choses pour pouvoir continuer avec cette passion d'avoir un reptile chez soi, et en même temps en respectant au mieux l'animal.
On vient de parler des animaleries. Je t'ai demandé de préciser la nature du rapport que tu avais avec eux, parce que j'ai parlé d'acheter des trucs. Enfin, en gros, tu te situes comment
Alors, nous, avec SOS Tibet et moi, j'ai jamais acheté de serpents, enfin de reptiles en tout cas. On achète la nourriture en animalerie. Donc nous, on travaille avec des animaleries pour avoir le matériel qu'on a besoin pour faire vivre nos animaux et la nourriture. Mais après, les animaleries, elles vendent des animaux et ça, nous, on n'y contribue pas. Après, voilà, des gens en achètent et s'ils font bien les choses et s'ils s'occupent bien de leurs animaux, voilà, ça peut bien se passer. Mais effectivement, dans des animaleries qui ne sont pas spécialisées et qui donnent des mauvais conseils, ça peut donner des catastrophes comme avec Flamèche.
On parle de soins, tu parles d'animaux souvent blessés. Vous avez évidemment des connexions avec des vétérinaires, avec d'autres associations. Au moins dans cet épisode, j'aimerais que tu commences par parler du rapport que vous avez éventuellement avec les vétérinaires.
Avec les vétérinaires, on a un lien très fort parce que on emmène régulièrement nos animaux là-bas quand ils sont blessés ou même pour les pucer parce que depuis 2018, une bonne partie des reptiles qu'on a ont besoin d'être pucés. C'est une loi qui est passée. Depuis 2018, on a l'obligation de pucer par exemple les pythons, les boas, les varans et beaucoup d'autres reptiles.
Question technique, je vois très bien comment on puce une vache sur l'oreille et comment on puce un serpent.
Alors pour pucer un serpent ou même un lézard, ça va être à l'arrière gauche, dans une partie où il y a assez de gras et donc on va mettre juste sous la peau une petite puce qui est plus petite que celle des chiens et des chats, qui fait la taille même pas d'un grain de riz. C'est vraiment tout petit. Oui. Et ça se place donc soit sur la patte arrière gauche, soit à l'arrière gauche du serpent.
Qui n'a pas de patte.
Qui n'a pas de patte du coup.
Merci de le rappeler. Alors tu l'as évoqué déjà dans le premier épisode, ça vous arrive aussi de récupérer des animaux chez des vétos. Raconte-nous les circonstances.
En fait, les vétos, très souvent, ils vont récupérer des animaux aussi quand, par exemple, quelqu'un vient déposer un animal et va jamais le récupérer. C'est arrivé avec Skull, qui est notre iguane, qui a été acheté sur le bon coin par quelqu'un qui voulait le sauver, mais en fait, qui l'a juste amené chez le vétérinaire et qui a jamais repris contact avec la vétérinaire et qui l'a laissé là-bas. Donc lui, il était très déshydraté et très maigre quand il est arrivé. On l'a bien remis en forme chez nous et maintenant, c'est un super beau iguane, super sympa.
Mais qui n'a toujours pas trouvé de famille d'accueil.
Mais qui n'a pas de famille pour l'instant.
C'est pas bien clair. Tu dis qu'en permanence, vous avez 30 animaux, qu'en moyenne, quand il y en a un qui arrive, il y en a un qui repart. Mais donc, il y en a malgré tout qui ne trouvent pas preneur. C'est horrible comme expression preneur. Qui ne trouvent pas de famille d'accueil malgré tout.
Oui, il y en a qui peuvent rester très longtemps. Hein. On a des animaux qui sont là depuis quasiment le début de la situation. On en a qui sont là depuis 2 ans. Le crabe, par exemple, il est là depuis 2 ans. On a des pythons qui sont là depuis 2 ans. Parce que c'est des animaux qui intéressent moins les gens. C'est des animaux qui sont plus communs, souvent, et qui vont moins intéresser les familles. Et donc, les gens vont préférer des espèces plus rares.
Rappelle-nous le nom du crabe, au passage.
C'est un crabe tricolore.
Oui, ah oui, mais celui-là, il n'a pas reçu de surnom.
Son nom à lui, c'est Cardi. Cardizoma armatum. C'est le nom scientifique. Et donc, lui, il s'appelle Cardi. Des fois, on ne s'complique pas la tête. Hein. C'est vraiment au plus simple.
D'accord, d'accord. On va s'arrêter là pour ce deuxième épisode, Abel. Bah, merci pour toutes ces histoires qui sont majoritairement touchantes. Donc vraiment, merci de les partager avec nous. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut.
Salut Marc.
Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire ?